Soft Power, Frédéric Martel.
Dans trop peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux.
Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête.
Supercalifragilistique, expialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine de France Culture consacré aux industries créatives, au numérique et aux médias. Au cœur du Soft Power se trouvent les industries du divertissement. Et au centre de ces industries de l'entertainment, il y a 6 studios, notamment 6 studios de cinéma, Warner, Paramount, la 20th Century Fox, Columbia, Universal et Disney. Tous, sauf Columbia d'ailleurs, qui appartient au japonais Sony, sont américains. Forte concentration donc aux États-Unis, concentration éventuellement accrue par le rachat déjà engagé de la 20th Century Fox par Walt Disney. C'est à ces industries que nous nous intéressons ce soir dans Soft Power et en particulier au géant Walt Disney dont on vient d'entendre quelques extraits de films. Hier, le plus petit des grands studios, on le disait indépendant et artisanal, et aujourd'hui c'est l'un des plus gros qui domine non seulement l'industrie du cinéma mais aussi de la télévision, des séries, mais aussi ou encore les parcs d'attractions, les jeux vidéo, le théâtre à Broadway. Je reçois ce soir, pour cette émission consacrée à Disney, Disney à 360 degrés, le président de la Walt Disney Company en France, Jean-François Camilleri. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Un mot peut-être pour commencer sur le film Black Panther, qui est un succès considérable aux États-Unis, un peu partout dans le monde, avec un box-office supérieur à 1,3, je crois, milliard de dollars d'entrée d'ores et déjà à travers le monde. Mais succès aussi en Afrique, dont vous vous occupez, Jean-François Camilleri, puisque vous dirigez Disney en France, au Benelux, au Maghreb et en Afrique francophone.
Oui, un immense succès pour ce film qui aujourd'hui dans les pays d'Afrique francophone est le plus gros succès tout simplement de tous les temps pour un film au cinéma.
Combien d'entrées à peu près ?
On est à 120 000 entrées.
C'est peu en théorie, mais il y a très peu de salles en Afrique. Donc.
Voilà, si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, on est à 90 000 entrées en Côte d'Ivoire, il n'y a que 3 salles, les 3 salles sont à Abidjan. Donc on a fait 90 000 entrées avec 3 salles.
Peut-être quelques millions aussi en téléchargement illégal, mais c'est un autre débat.
Comme dans le monde entier, pas particulièrement en Afrique, vous savez. Le piratage aujourd'hui est malheureusement un mal qui est mondial, qui est global, comme on dit.
Et sur Black Panther, succès États-Unis versus France, dans les deux cas, immense succès, mais plus relatif finalement en France.
Aux États-Unis, c'est le troisième plus gros film de tous les temps, juste derrière Avatar et Star Wars, Le Réveil de la Force, qui était sorti il y a un an et demi. En France, on est à 3,6 millions d'entrées, ce qui est absolument énorme, mais qui en proportion n'est pas aussi gros qu'aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on est face à un phénomène culturel aux États-Unis, et on est aussi, c'est un film américain, faut pas l'oublier, hein. Il a aussi cette particularité.
Jean-François Camilleri, patron de Disney, mon invité ce soir. Il sera interrogé par Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Frédéric.
Et bonsoir Frédéric et à tous.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant, l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives. Nous parlons de Spotify qui entre en bourse depuis cette semaine, qui est entré en bourse, et de l'exposition Artistes et Robots au Grand Palais à 20h en seconde partie d'émission. L'invité Innovation ce soir avec vous Zoé Sfès.
C'est Philippe Bellabal, le président du Centre des Monuments Nationaux, qui lance demain un appel à candidature pour mettre sur pied son premier incubateur de start-up. Des start-up qui sont destinées donc à innover dans le secteur du tourisme et du patrimoine, où la France, pour le coup, c'est un des domaines où on ne peut pas contester qu'elle est encore leader. Pourquoi est-ce qu'on ne s'y est pas attaqué avant et qu'est-ce qu'on attend de ce type d'incubateur ? On en parlera avec lui.
Philippe Bellabal donc à 20h. 20h10, le numérique et politique. Le débat de ce soir sera consacré à l'open data. Nous en débattrons avec Paula Forteza, députée de La République En Marche, et Séverin Naudet, ancien conseiller numérique du Premier ministre François Fillon et conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Sonia Leglen avec en régie Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée par David Lavaux avec pour les réseaux sociaux Pierre Ledamani, car vous pouvez suivre également cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, sur Medium, Facebook, LinkedIn, en podcast et sur France Culture en direct jusqu'à 20h30. « L'actualité comme chaque semaine au début de cette émission avec nos chroniqueurs. Mardi, Spotify, le service de musique en streaming, a réussi son entrée en bourse, à la bourse de New York d'ailleurs, un camouflet pour les Européens peut-être. Et cette introduction en bourse semble déjà, Emmanuel Paquette, un succès.
Alors oui, c'est un succès puisqu'aujourd'hui la société est valorisée 26 milliards d'euros. Donc ça, c'était sa valorisation vendredi à la clôture des marchés. Il faut savoir que la société fait simplement 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en tout cas sur son dernier exercice, l'exercice 2017, pour 1,2 milliard de pertes. Donc une valorisation de 26 milliards pour 1 milliard de pertes. Alors ce qu'achète aujourd'hui le marché financier,
les investisseurs,
c'est la croissance d'une part de la société, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 71 millions d'abonnés payants au service, contre 38 millions pour Apple Music, qui est le premier challenger
concurrent
en gros de Spotify,
ouais.
Spotify qui est suédois, même s'il est coté sur le marché américain. Donc on voit aujourd'hui la différence entre Apple d'un côté, même avec sa puissance qui n'arrive pas encore à rattraper Spotify, et puis surtout une base d'utilisateurs aussi au niveau gratuit, hein, où là il y a une rémunération par la publicité, de 159 millions d'utilisateurs dans le monde. Faut savoir qu'aujourd'hui le service est disponible dans 61 pays à travers le monde. D'autres pays ne cessent d'ouvrir chaque mois ou chaque trimestre. Et donc on voit maintenant que ce qu'attend le marché, c'est une croissance continue d'une part, et surtout une réduction importante des pertes pour arriver très vite à l'équilibre et si possible à la rentabilité.
Pourquoi une cotation aux États-Unis, en bourse aux États-Unis pour une société européenne? Ça a été critiqué, symbole d'une Europe qui ne saurait même pas permettre à ses propres entreprises d'entrer en bourse.
Pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui les plus grosses valorisations de la planète se trouvent sur deux grands marchés, les États-Unis en grande partie, et puis de petit à petit la Chine. Beaucoup d'entreprises chinoises aujourd'hui se font coter sur les bourses de Hong Kong ou de Shanghai, puisque les valorisations deviennent assez importantes sur ces deux places financières. Mais même aujourd'hui, par exemple, le géant du commerce en ligne Alibaba s'est coté directement au Nasdaq, aux États-Unis. Donc on voit que même les entreprises chinoises, quand elles veulent avoir une bonne valorisation et donc permettre aux investisseurs de pouvoir sortir en réalisant une plus-value importante et surtout de lever des fonds pour pouvoir faire des acquisitions pour leur futur, choisissent les États-Unis comme place de marché préférentielle.
Alors bonne nouvelle en revanche pour les Européens depuis quelques jours, hein, depuis dimanche dernier d'ailleurs, des services comme Spotify mais aussi Deezer ou Netflix on a la portabilité qui a été mise en place des services numériques effectifs donc dans l'Union Européenne, c'est-à-dire que si vous êtes abonné à l'un de ces services, vous pouvez continuer à voir les films même si vous êtes en vacances ou si vous êtes transfrontalier ou si vous vous baladez, si vous prenez le train, enfin quand on peut, ou l'avion quand on peut aussi. Bref, désormais grâce à l'Union européenne, qui peut-être ne sait pas coter ses sociétés en bourse en Europe, elle sait pour l'instant au moins permettre à ce que les services soient continus d'un pays à l'autre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà une nouvelle pour ceux qui sont abonnés à ces services.
Soft Power, reportage. Zoé Suez.
Et dans mon reportage, je suis allée à l'exposition Artistes et Robots, Frédéric, puisque Artistes et Robots, nous sommes partenaires de cette exposition, mais c'est une bonne nouvelle, car c'est une excellente exposition qui sort.
On y consacre d'ailleurs des sujets ce week-end.
Ce week-end, puisque c'est un week-end intelligence artificielle, et justement, puisque l'heure est à l'intelligence artificielle, le Grand Palais consacre, on peut le dire, pour la première fois, une vraie exposition à au rapport qu'entretiennent les artistes avec les robots, les ordinateurs. En gros, la technologie, on y retrouve évidemment des pionniers qu'on connaît bien, qu'on croit connaître bien en tout cas, Tingali, Schaeffer et Xanakis, mais aussi le meilleur de la création contemporaine avec par exemple les œuvres extraordinaires de Ryoji Ikeda et ces espèces de compositions visuelles et sonores extraordinairement impressionnantes. Mais surtout, on redécouvre des pionniers qui sont encore là, qui sont encore présents et qui sont assez surpris et assez heureux d'être enfin, disons, présent dans une institution aussi importante que le Grand Palais. J'ai rencontré Edmond Couchot qui présentait une pièce qui est déjà assez vieille, qui s'appelle Les Pissenlits. On a d'immenses pissenlits numériques dont les akènes vont se détacher quand vous soufflez dans un micro. Etienne Couchot, qui a plus de 80 ans et qui attendait ça depuis longtemps.
Nous étions très proches, Michel Brett et moi, parce qu'on était enseignants à l'Université de Paris 8 et nous avons créé ensemble le premier diplôme en France, qui offrait à des étudiants l'occasion de créer sur des machines. Le plus rigolo, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de machines. comme il y en avait maintenant. Donc il fallait fabriquer littéralement ces algorithmes, etc. Et là, tout le travail de Michel, c'était de construire un programme, un logiciel, mais sur une inspiration artistique. Moi, de mon côté, je cherchais la relation au spectateur. Ça n'existait pas. Il y a toujours très peu de propositions de ce genre, et pourtant, le souffle, c'est tellement important. C'est la vie. Si vous voulez, ça a mis du temps. C'est pas la faute des artistes. Et c'est la faute de toute une ambiance qui était vraiment, même dans les arts, c'était très anti-technologique. D'ailleurs, si vous voulez, le destin des mouvements comme cinétisme, etc., si vous voulez, s'est manifesté dans les années 60, mais c'est tout de suite éteint, il a été occulté au profit d'autres propositions, j'allais même dire idéologies, derrière. Et là, je suis vraiment, vraiment très ravi, et surtout de voir que on a été reçu dans un lieu qui, jusqu'à maintenant, était un lieu de rêve un peu inaccessible. Comme des gens qui inventent quelque chose.
Le procès qui lui était fait à cet art, ou en tout cas le désintérêt, vous pensez qu'il venait d'où ? De cette obsession qu'on a de l'artiste auteur ou de la sensation que c'était gadget ?
Oui. C'est vraiment toute une culture de résistance, si vous voulez, une culture misogynique qui refuse la nouveauté. Il y a eu une peur stupide des machines, de l'ordinateur. Cette résistance cède, et là on voit quand même des choses qui naissent et qui sont très encourageantes pour l'avenir. C'est notre avenir aussi. Mais ça ne veut pas dire que le reste soit rejeté. Je ne suis absolument pas contre la peinture, ni contre la main. Je pense que tout ça, ça peut coexister et s'enrichir mutuellement.
Vous entendez les compositions sonores de Ryoji Ikeda, vous avez entendu Étienne Couchot, et sont présents aussi dans cette exposition, disons, les stars de l'art contemporain qui travaillent avec les robots, et parmi eux, l'Australien Stellark, de son vrai nom, Stelos Arkadiou, qui travaille depuis 10 ans maintenant sur des espèces de performances d'art corporel où il mélange son corps, ou en tout cas, il adjoint à son corps des excroissances robotiques. Il était présent à l'inauguration de cette exposition, et il présente notamment un exosquelette de bras avec lequel il a fait une performance qui reste encore aujourd'hui dans les annales.
This exoskeleton arm was in a performance titled Rewired Remixed.
J'ai conçu cet exosquelette de bras pour une performance intitulée Rewired and Remixed. Mon corps était à l'Institut pour l'art contemporain de la ville de Perth, en Australie, et pendant 5 jours, 6 heures d'affilée, je ne pouvais voir qu'à travers les yeux de quelqu'un qui se trouvait à Londres. Je ne pouvais entendre qu'avec les oreilles de quelqu'un qui était à New York.
But anyone, anywhere could access my right arm through the exoskeleton.
Et n'importe qui, n'importe où, pouvait, grâce à une application, contrôler les mouvements de mon bras emprisonné dans cet exosquelette. Donc mes sens étaient externalisés et le contrôle de mon bras était distribué à des inconnus aux quatre coins du monde.
À quoi elle correspond cette recherche ?
Le corps humain m'a toujours intéressé en ce qu'il est une architecture qui est le résultat d'une évolution. Et jusqu'à l'arrivée des nouvelles technologies, ce corps humain ne pouvait pas fonctionner au-delà de la limite de la peau et au-delà de l'espace de son habitat. Aujourd'hui, tout le monde peut exister au-delà des limites de son corps, distribuer son identité partout dans le monde grâce à Internet. Et c'est quand même fascinant conceptuellement, mais aussi physiologiquement. Et c'est intéressant d'avoir pu expérimenter avec cette performance une situation où je n'avais jamais vraiment le contrôle de moi-même. Ceci dit, on n'a jamais vraiment le contrôle de soi-même. On imagine toujours qu'on a notre libre arbitre et notre identité propre. Mais ça n'est en réalité qu'une construction sociale, et le monde ne se résume pas simplement à l'interaction de nos corps entre eux. Les nouvelles technologies génèrent toute une nouvelle catégorie d'informations, et je ne m'enthousiasme pas comme certains en pensant qu'elles nous rendent puissants. En réalité, les technologies déstabilisent fondamentalement le corps humain et génèrent de l'anxiété, de l'ambivalence. Le philosophe français Paul Virilio dit que chaque nouvelle technologie crée une nouvelle forme d'accident. Alors, je suis un petit peu plus optimiste que lui et j'aime jouer avec les possibilités inattendues de ces nouveaux instruments et machines.
Stellark donc et son exosquelette de bras que vous pouvez contrôler si vous allez au Grand Palais voir l'exposition Artistes et Robots, c'est jusqu'au 9 juillet prochain.
Voilà, dimanche dernier, on avait évoqué l'intelligence artificielle autour de cette exposition. Eh bien, il nous fallait aussi en parler après l'avoir vue. Et c'est ce que vous avez fait ce soir. Zoé Sfez, Soft Power sur France Culture jusqu'à 20h30. Mon invité ce soir est Jean-François Camilleri, le président de la Walt Disney Company en France. Most of them gon' fall, I know. We gon' bet it all, I know. We gon' bet it all, I know. Power girl, I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna power girl. You been running through my section all day. À 19h16 sur France Culture, en direct dans Soft Power, un extrait de la bande originale de Black Panther, Khalid avec Swiss Lee. Très belle bande originale d'ailleurs, musicale de ce film, Jean-François Camilleri. Comme si la musique était aussi au cœur du succès d'un blockbuster désormais, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
Ce qui a toujours à peu près été le cas,
oui,
chez
dans
Disney.
Les Star Wars et tout ça.
Non, même dans les Disney en général, et dans la bande originale d'un film est toujours, en tout cas très souvent, quelque chose de très important.
Mais pas forcément confié à des stars comme là, où vous avez un palmarès de stars autour de Kendrick Lamar époustouflant.
Parce que c'est un sujet et c'est un film qui va bien au-delà d'un film de super-héros, et je pense que il a été important pour le réalisateur et pour les producteurs de Marvel que sur l'ensemble de l'approche artistique de ce film, il y ait une cohérence, et elle a été trouvée sur la BO également.
Alors avec vous, nous avons une dizaine de sujets. Ce soir, on va parler de l'Empire Disney, à la fois en France, aux États-Unis. On parlera de la velléité, le projet de rachat de la 20th Century Fox. On reviendra sur Avengers, Black Panthers, Blue, un film de Disney Nature dont vous êtes aussi le directeur. Disney Nature, c'est un sous-studio, une unité spécialisée, on pourrait dire, de Disney. On parlera des Disney Store, un petit peu de Disneyland, et puis du streaming, c'est-à-dire comment est-ce que vous pensez évoluer à travers Hulu d'une part, face à Netflix, et peut-être avec des services propres. Mais peut-être pour commencer, Jean-François Camilleri, vous êtes le président de la Walt Disney Company en France. Vous occupez de l'ensemble de Walt Disney en France, au Benelux, également au Maghreb et en Afrique francophone. Comment s'est organisé Disney en France?
Alors, nous
et
avons...
d'ailleurs réorganisé récemment.
Nous avons deux structures. On a la structure de Disneyland Paris qui gère le parc. Parc qui est une société particulière puisqu'elle n'est pas particulièrement française. La structure est française mais elle s'adresse à un public international. Et puis une seconde structure que je dirige qui est la structure qui s'occupe de tout le reste des activités, le cinéma... les produits sous licence, qui comprend également le livre, le disque, les magasins, toute l'activité télé. Et l'activité télé, c'est à la fois des chaînes de télévision, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Disney Cinéma, mais c'est aussi la distribution de nos contenus aux chaînes de télévision françaises. Les chaînes comme TF1, M6, France Télévisions.
Donc notamment les séries télévisées.
Donc les séries télévisées, parce que le groupe ABC nous appartient. Donc des séries comme Grey's Anatomy, comme Scandal, comme
Desperate Housewives
à l'époque, Lost, Castle. Toutes ces séries sont à nous. Et puis, bah, il y a également les comédies musicales quand nous en faisons.
Notamment Le Roi Lion, par exemple.
Le Roi Lion ou La Belle et la Bête, plus récemment. Et à Broadway, ça a commencé il y a quelques jours, quelques semaines, La Reine des Neiges.
Emmanuel Paquette.
Oui, juste aujourd'hui, pour bien comprendre l'Empire Disney, qui fait à peu près 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, il faut savoir que le premier contributeur au résultat, disons au chiffre d'affaires pardon, du groupe, c'est la partie média, donc c'est les chaînes de télévision dont vous parliez, donc ABC aux États-Unis, ESPN, donc les chaînes de sport, et puis après toutes les déclinaisons dont vous parliez, Disney Channel, Disney XD. Vous aviez aujourd'hui combien de chaînes distribuées? Câbles, satellites, box en France. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant ou il faut en distribuer d'autres? Puisqu'aujourd'hui, on voit vos concurrents américains. Il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, le groupe Paramount a lancé Paramount TV en France. Est-ce que vous, Vous pensez qu'il faut rester sur ce même schéma d'organisation ou mettre plus de chaînes à disposition sur le territoire français ?
Aujourd'hui, en France, on en a quatre. Disney Channel, Disney Junior, XD et Disney Cinéma. Et on n'en aura pas d'autres parce que grâce à ces quatre chaînes, on a véritablement l'ensemble de ce dont nous pouvons présenter en linéaire aux téléspectateurs français, avec chacune des chaînes ayant sa spécificité, Channel étant la plus généraliste, XD étant plutôt pour les garçons, Junior pour les plus jeunes, et Cinéma qui est dédié aux grands films de Disney. On n'a pas de raison d'en avoir d'autres. Aujourd'hui, on est très bien avec ces quatre chaînes et avec les différents accords qu'on a avec les plateformes ou avec Canal.
Disney en France, les deux mots sont à la fois presque un peu complémentaires mais aussi un peu opposés, global et français, américain et français. On va fêter les 90 ans de Mickey, je crois que ce sera le 18 novembre prochain. Comment est-ce que vous pensez que les Français reçoivent, aiment ou pas Disney, un pays connu pour être très anti-américain mais qui en même temps a un des pourcentages de McDonald's les plus élevés au monde, ou par exemple Google est loin devant en France, plus important en pourcentage qu'il ne l'est même aux États-Unis dans la population.
Et quand vous allez aux États-Unis, vous vous rendez compte que un des pays le plus représenté en nombre de touristes, c'est la France. Il y a une relation d'amour et de haine entre les Français et les États-Unis. Les Français adorent les États-Unis, et puis il y a aussi quelquefois en
de
effet
la compétition, la concurrence, de la jalousie.
Ou je sais pas comment on peut le définir. En ce qui concerne Disney, la société Disney a toujours été très très proche de la France. Walt Disney lui-même a été très inspiré par la France sur beaucoup des contenus qu'il a créés. Beaucoup d'artistes français ont travaillé ou travaillent aujourd'hui encore pour Disney. Je ne pense pas qu'il existe un autre pays qui ait été autant représenté dans les grands films que la France. Les Aristochats, les Bossus de Notre-Dame, l'inspiration pour La Belle et la Bête, Ratatouille plus récemment, et il y en a beaucoup d'autres. Le nom de Walt Disney, son nom vient d'un village français qui est Disney. Et Walt Disney a lui-même passé beaucoup de temps en France. C'est la France qui a été choisie pour installer le seul parc en Europe, la première structure qui représentait Walt Disney à l'extérieur des États-Unis était en France en 1934. La France est le premier pays à avoir lancé un magazine Disney, le journal de Mickey, qui existe encore aujourd'hui. Donc il y a toujours eu avec la France des liens très très forts. Et aucun autre pays au monde n'a eu ces liens. Et ça crée une relation particulière à la fois entre Walt Disney et la France, mais entre le public français et Walt Disney.
Justement, aujourd'hui, la France, vous en parlez, elle représente quoi ? Là, on l'a dit, Black Panther a proportionnellement, ce qui est à la manière dont il marche dans d'autres pays, moins marché aux États-Unis. On est quand même aussi ce pays en matière de cinéma où il y a cette exception culturelle française. Qu'est-ce qu'elle représente la France aujourd'hui pour Disney, notamment sur la manière dont on reçoit ou pas les blockbusters? On sait qu'on a un cinéma très vivace, dans la manière ou pas dont les séries et les figures, parce qu'évidemment, on l'a dit, on l'a rappelé, et c'est bien de le rappeler, parce que parfois les Français ne savent pas que vous possédez tout cela. Ils connaissent à la rigueur les chaînes, mais pas nécessairement, parfois oublient que Marvel aussi, c'est des Disney. Ouais. Avengers va sortir, mais qu'est-ce que ça représente la France aujourd'hui pour Disney?
Alors, il n'y a pas une réponse à cette question, il y en a plusieurs. Si vous prenez Coco, le film de Pixar, c'est la France qui est le premier pays en Europe sur Coco et troisième pays au monde derrière le Mexique et la Chine. Ce qui est encore un score extraordinaire parce que on a 65 millions d'habitants, beaucoup moins que dans la plupart des pays où on a des bureaux, en tout cas moins que dans beaucoup d'entre eux. Et Coco est le premier pays d'Europe, enfin on est le premier pays d'Europe sur Coco et le troisième pays à l'international. Si vous prenez d'autres films, c'est également le cas. Et puis après, il y a certains films où on est un petit peu moins bien, on peut être cinquième ou sixième. Je dirais que à l'international, pour essayer quand même de vous apporter une réponse à votre question, à l'international, donc quand on parle de l'international et on enlève les États-Unis, on est bon an mal an le cinquième pays derrière la Chine, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne, et c'est à peu près.
Et ça, c'est assez nouveau quand même, parce que quand on vous avait reçu, je crois, il y a une dizaine d'années, au fond, la France arrivait assez vite dans les pays leaders, la Chine n'existait pas encore dans le box-office à ce moment-là, le Brésil non plus, le Mexique était assez loin derrière. C'est une cartographie du box-office du cinéma américain qui a été fondamentalement changée.
Tout à fait. Des pays comme le Mexique, vous les avez cités, mais la Corée du Sud également, prennent de plus en plus d'importance. L'Australie, alors que c'est pas un pays très peuplé, comme on le sait. Il y a une explosion du nombre de salles. Si on parle que de cinéma, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'autres activités, tient, ouais. Mais j'ai compris que votre question était principalement sur le cinéma. Sur le cinéma, sur les 10 dernières années, l'expansion des salles, des multiplex de très très grande qualité, en Asie énormément, mais aussi de plus en plus en Amérique latine et bientôt en Afrique, fait que les pays plus traditionnels, comme les nôtres, comme le nôtre, vont au fur et à mesure être dépassés par la Chine, par la Corée du Sud. Vous prenez l'exemple de Black Panther, la Corée du Sud est, je crois, le deuxième pays à l'international.
Et là, on parle dans ces pays de 3, 4, 5 nouveaux écrans chaque jour, encore plus en Chine. Et forcément, la France, qui est assez stabilisée, puisqu'elle évolue, elle diminue pas, mais son parc est un peu mature, voilà, d'une certaine manière.
C'est la différence qu'il y a entre les pays émergents et les pays qui sont à maturité.
Emmanuel Paquette.
Oui, pour continuer sur cette même idée, c'est, à ma connaissance, la première fois que Disney se retrouve sélectionné au Festival de Cannes, hors compétition. Pour le film Solo, donc Star Wars. Il y a eu deux Star Wars avant qui ont été sélectionnés, mais à l'époque, c'était Lucasfilm, qui détenait la franchise. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de reconnaissance de la France vis-à-vis de Disney, ou inversement, que Disney est reconnu sur le territoire français avec Star Wars ?
Avec Star Wars, oui. On a déjà été... Il y a trois ans, on a présenté Vice Versa. Et en 2009, on avait présenté Là-haut de Pixar. Donc le festival et Thierry Frémaux sont très proches de la sensibilité de Pixar notamment. Pour Star Wars, c'est en effet et pour un film comme celui-ci, c'est la seconde fois puisqu'il y a eu donc c'était en 2005.
Il y a eu l'attaque des clones et la revanche des Sith, les deux avaient été sélectionnés.
Et puis on a eu Pirates des Caraïbes il y a quand même 7 ans en 2011. Mais ouais, on est très très content d'être présenté avec Solo, parce que ça met en effet, vous avez raison Emmanuel, la France au milieu d'un dispositif mondial de lancement du film.
Sur la présence, justement, sur le rôle, sur l'image qu'on a de Disney, et notamment des blockbusters, parce que je le rappelle, on vient d'évoquer les grands films, le Disney de Noël, il y a Star Wars, et il y a évidemment les Marvel, où là, on est quand même sur des régularités. Avengers, qui sera probablement l'un des films les plus chers de l'histoire, qui sort de manière très imminente.
Sur 25 avril,
avec au moins 25 stars, voire plus, je crois, dedans.
30.
Sur 30, au moins 30. Sur la question, justement, de la manière dont vous êtes vu, vous, les blockbusters, un pays comme la France, où il y a cette exception culturelle, notamment sur l'évolution. On parlait du parc des salles en France. On a des cinémas d'art et d'essai qui souffrent. Là, par exemple, le cinéma La Clé dans le 5e arrondissement de Paris, où les salariés proposent un projet de reprise à ses propriétaires. On a pas mal de salles qui s'éteignent. Et est-ce que cet équilibre-là, vous, en tant que président de Disney France, est-ce que c'est une question, ça fait partie des choses que vous regardez ou pas nécessairement ?
En permanence. On est très proche de la fédération des salles, on est très proche de l'exploitation, on leur parle tous les jours. Le parc de salles est absolument capital pour nous et pour le cinéma en général, et tout est lié. C'est-à-dire que le cinéma...
Est-ce que vous écrasez pas parfois, parce que c'est une des vraies questions, est-ce que vous n'écrasez pas parfois ?
Non, parce qu'on parle pas, l'avenir de La Clé, puisque vous en parlez, est absolument pas lié au succès ou à l'échec de Black Panther.
Au contraire, on presque dire, alors, puisque
d'une part, au contraire,
grâce au financement du cinéma via le CNC, enfin, je veux pas défendre les Américains, mais
non, c'est mais au fond, complètement, c'est ce que
le cinéma français est financé par le cinéma américain, et donc, la production indépendante bénéficie des succès des blockbusters américains.
Ouais, il faut que tout le monde comprenne que, et c'est exactement ce que vous venez de décrire, il y a plus de 1 euro par entrée, quel que soit le film, qui va au CNC et qui permet au film français d'être aidé, d'être financé. Donc nous, on fait 25 millions d'entrées par an. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est ce qu'on va faire à peu près cette année. Donc on est très très content de ces 25 millions d'entrées.
Ça apporte 25 millions, grosso modo, par an. C'est facile à faire le calcul.
C'est beau, Frédéric Martel, vous donnez la réponse vous-même, mais il est parfait.
Et puis surtout, c'est facile à... C'est difficile en maths, 1 euro pour 25 millions.
C'est très important parce que Le système est totalement vertueux. Ce système qui existe depuis des décennies est complètement vertueux.
Depuis
ça
André
permet
Malraux,
au film français d'exister encore beaucoup plus que n'importe quel autre cinéma dans le monde. Et nous, on est complètement derrière ça. Mais on est un des plus gros contributeurs à ce système et on en est très fiers.
Wow.
I'm Peter, by the way.
Doctor Strange.
Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man.
À partir du 25 avril, donc, ce sera Avengers numéro 3, épisode 1 de Infinity War, dont on écoutait la bande-annonce à l'instant. C'est quoi l'idée derrière cet Avenger présenté comme étant à la fois le ramassis de toutes les stars et de tous les
personnages. C'est pas un joli mot.
C'est pas joli, mais non, c'est de tous les personnages de Marvel.
C'est voilà. Le 10e anniversaire du Marvel Cinematic Universe, MCU. Mmh. Et l'idée, alors. Le film sort le 25 avril, donc je ne vais pas faire de spoiler, mais l'idée, au fur et à mesure où le Marvel Cinematic Universe avance, c'est que l'ensemble de ces super-héros est à la fois le film qui, enfin pas tous, mais en tout cas pour certains d'entre eux, comme Black Panther notamment, qui permet d'en savoir plus sur eux et sur leur quête, et puis qu'ils se retrouvent pour des challenges et des défis communs.
Alors avec Disney au fond et en particulier avec Disney Nature dont vous êtes le directeur puisque c'est un studio, un sous-studio disons français, créé je crois il y a pile 10 ans, en 2008, vous avez à la fois on peut dire les grands blockbusters de type Black Panther ou Avengers mais aussi des films qu'on pourrait pas définir comme des films artistiques mais en tout cas des films plus petit budget comme Blue qui vient de sortir, qu'on a vu d'ailleurs, film comment dire beau, tout simplement très beau avec au fond il y a même, je crois, Nemo qu'on croise, puis il y a le gentil dauphin, le bébé dauphin Blue, que évidemment tout le monde aime beaucoup. Mais c'est aussi du Disney, c'est-à-dire pas de violence animale, les orques ne mangent pas les gentils dauphins, il n'y a pas de sexe, bien sûr, entre dauphins. Et un thème écolo un peu gentil, d'ailleurs un peu anti-Trump, mais pas trop, quoi. Disney, disons. Vous dirigez Disney Nature, vous faites quoi, un film par an à peu près, c'est ça ?
On fait un film par an depuis 10 ans maintenant, en effet, oui.
Quel est le résultat pour Blue ? Comment vous voyez le succès, bon, évidemment beaucoup plus relatif de ce film ?
Alors, ce qui est très important avec Disney Nature, c'est que c'est le symbole de notre engagement. Moi, je veux absolument que la Walt Disney Company en France et aussi dans les pays où on est présent, et notamment au Maghreb et en Afrique francophone, soit sur l'engagement. On parlait tout à l'heure Spotify à Wall Street ou d'Alibaba au Nasdaq, mais je crois qu'une société comme la nôtre, avec la force qu'on a, avec le leadership qu'on a dans les médias et dans l'entertainment, on doit absolument jouer un rôle dans la société en général et sur des thèmes qui sont des thèmes sur lesquels on a une forme de légitimité à
agir. Donc là, c'est l'environnement, disons.
Là, c'est l'environnement. On est très présent sur les thèmes de la solidarité, sur les thèmes de la santé.
De la malbouffe, on y reviendra tout à l'heure.
Voilà. On a travaillé également avec le ministère de l'Éducation nationale sur la lutte contre le harcèlement. Et tout ça, c'est vraiment important. Donc Disney Nature, c'est un engagement qui nous permet, à travers ce qu'on sait faire, c'est-à-dire raconter des grandes histoires au cinéma, de donner au public des informations sur un sujet, mais en passant par l'émerveillement. La beauté sauvera le monde, on part de ce principe-là.
Et là, on est sous l'eau et on voit les poissons.
On est sous l'eau, on
voit
les poissons.
Mais il ne se passe pas grand-chose d'autre, mais c'est très très beau.
Alors, il se passe des choses quand même, mais... C'est pourtant plus facile à comprendre qu'un Marvel, c'est sûr.
Nettement plus facile à comprendre.
Mais non, ce qui est important, c'est que Cécile de France, qui fait la voix du film, donne des clés, explique des choses et explique que le corail qu'on voit, parce que c'est vraiment avant tout, même si c'est deux dauphins qui nous transportent et qui nous guident, c'est avant tout un film sur le corail et l'état du corail dans l'océan, l'acidification des océans et toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais ce qui est important, c'est que je veux que les gens voient ces films-là, puis s'ils ont été intéressés, s'ils ont été sensibilisés, ils ont derrière les outils qu'on leur met en main pour aller en savoir plus et éventuellement faire des choses. Donc avec Tara Expédition, on fait beaucoup de choses et à la fin du film, on donne des clés, on donne des adresses à suivre pour aller agir si on a envie d'agir.
D'ailleurs, très belle technique de fin de film puisque vous montrez comment le film a été fait,
tout à fait.
Avec les acteurs, si on peut dire, les dauphins, mais aussi les caméras telles qu'elles ont été utilisées. Emmanuel Paquette.
Oui, alors je revenais sur la question précédente de Frédéric, à savoir que quand il y a les blockbusters chez Disney, ça coûte très très cher et donc il faut les rentabiliser puisque c'est des paris à chaque fois extrêmement risqués pour le groupe. Là, sur Disney Nature, c'est des paris moins risqués, oui. moins chers. Et en revanche, ma question était de savoir si vous avez quand même un devoir, entre guillemets, de rentabilité au sein du groupe. C'est-à-dire qu'au moins, ça rencontre son public puisque là, le dernier qui a été produit, donc Blue, en première semaine d'exploitation, est rentré dans le top 10. Il fait à peu près 110 000, 113 000 entrées. Mm-hmm. En revanche, Né en Chine, qui était le précédent, mm-hmm. avait fait que 50 000 entrées en France, donc qui était plutôt...
La première semaine, il a fait 160 000 au final. Mais Né en Chine, il a fait 10 millions de dollars en Chine.
D'accord.
Ce qui tombe bien.
C'est quoi, ouais. comme, quel est le budget à peu près pour un film comme ça en France?
Alors, on donne pas les budgets, mais en gros,
on est très loin évidemment d'Avengers.
On est en dessous du budget moyen d'un film français.
Donc ça ne nous dit pas grand-chose, mais...
On est à beaucoup moins de 10 millions d'euros.
C'était plus facile tout à l'heure de faire le calcul.
On est à moins de 10 millions d'euros. On est à moins de 10 millions d'euros et c'est des films qui sortent au cinéma, qui sortent en DVD, qui sortent en VOD, qui passent sur les chaînes de télévision dans le monde entier. Donc, on n'est bien évidemment pas sur les rentabilités de Star Wars et d'Avengers, peu importe. C'est pas l'objectif.
D'accord.
L'objectif, c'est de ne pas perdre d'argent, bien évidemment, et on n'en perd pas. Et c'est surtout de jouer notre rôle dans ce dont je parlais tout à l'heure, l'engagement, et là en l'occurrence sur l'environnement.
Pour un film comme ça, ce qui est assez surprenant, au-delà de la beauté, et je le dis sincèrement, c'est vraiment un film très beau, Blue, mais vous n'avez pas recherché l'histoire beaucoup plus qu'une voix, effectivement, Cécile de France, qui raconte une histoire, mais au fond, sans histoire, plutôt d'abord et avant tout l'image, et le documentaire en fait.
On raconte l'histoire d'une année d'un jeune dauphin qui va, comme tous les dauphins, mais aussi beaucoup de mammifères en général, rester avec sa mère pour apprendre et pour trouver sa place dans le groupe. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup sur ce film-là, c'était vraiment de faire comprendre l'interaction absolument nécessaire entre tous les habitants de l'océan, qui représente 70% de la planète et qu'on connaît si peu. C'est quoi le corail? À quoi ça sert? Comment l'ensemble des poissons et des mammifères marins jouent avec le corail, etc.
France Culture, Soft Power, le magazine créatif et numérique, Frédéric Martel.
Voilà, on s'est amusé ce soir en réalisation pour cette émission Soft Power jusqu'à 20h30 en direct. Ce soir, je reçois Jean-François Camilleri, le président de Disney, de la Walt Disney Company en France. Alors, on a parlé des studios, du cinéma. Rappelons que il y a dans Disney à la fois Marvel, Pixar, Lucasfilm, des pourcentages aussi de Reliance en Inde, des accords avec DreamWorks, à l'époque Miramax qui a été revendu en 2010, des accords aussi avec UTV, etc. Bref, beaucoup de choses. Ce qui est également intéressant, c'est dans l'actualité de ces derniers mois, l'hypothèse du rachat par Disney de la 20th Century Fox, c'est-à-dire donc non seulement d'un studio, mais aussi de beaucoup d'autres choses, d'une autre major de cinéma, comme c'est une opération en cours d'ailleurs, regardée de près par le régulateur américain. J'imagine que vous n'allez pas vouloir développer beaucoup ce sujet, mais peut-être juste en gros, quel peut être l'intérêt pour Disney de racheter la 20th Century Fox?
Alors malheureusement, Frédéric, je ne peux pas du tout vous en parler. Parce que, non mais c'est donc Bob Iger,
le patron de Disney
a annoncé au mois de décembre cette acquisition. Comme vous le savez, il y a maintenant beaucoup de formalités qui doivent être accomplies et donc je ne peux absolument pas en parler.
Bon, en tout cas, ce serait un empire dans l'empire et ce serait un autre géant qui rachète un géant, Emmanuel Paquette.
Ouais, juste pour donner peut-être des données financières ou des données en tout cas de pourcentage pour voir un petit peu le pouvoir de la nouvelle entité si d'aventure cette fusion arrivait à son terme. Aujourd'hui, il faut savoir que Buena Vista aux États-Unis, c'est plus de 21% de parts de marché sur l'année 2017 et que dans le même temps, Fox, c'était 12% de parts de marché. Donc, une fois marié, ça serait quasiment un tiers du marché américain qui appartiendrait à cette nouvelle entité. Et ça serait encore plus vrai en 2018 puisque Disney démarre très bien l'année avec 30% de parts de marché aux États-Unis et Fox avec quasiment 13%. Donc là, on est à 43% de parts de marché des salles de cinéma aux États-Unis. Donc on voit le pouvoir que va détenir cette nouvelle entité, ce qui pose effectivement des questions au niveau de la régulation, de savoir est-ce qu'un tiers du marché ou 40% du marché c'est trop. Donc ça sera au régulateur américain d'y répondre.
La FCC, la FTC, etc.
Exactement, ouais. Mais le débat viendra également en Europe, puisque l'Europe est également concernée non seulement au niveau des salles de cinéma, mais aussi au niveau des chaînes de télévision, puisque plusieurs d'entre elles, au sein de Fox, sont aussi sur les territoires européens, notamment l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, je crois. Et donc, on verra sur ces différents pays-là aussi les mesures éventuelles, les remèdes, comme on dit, en termes de concurrence, qui pourraient être pris à cette fusion gigantesque.
Alors Jean-François Caminéry, pour poser la question autrement, on a des grands acteurs aujourd'hui, notamment Netflix, qui dans le cinéma mais aussi dans la télévision est un géant et du coup évidemment un concurrent majeur pour Disney. Les concurrents, c'est pas simplement les autres studios, c'est aussi la distribution via Netflix. Alors, sans évoquer la 20th Century Fox, avoir un groupe plus grand, avoir plus de produits, c'est peut-être aller plus personnellement, plus fortement soi-même dans le streaming. Est-ce que, où en êtes-vous ? Alors, vous avez désormais une division streaming en France. Où en êtes-vous ? Disney est présent au sein de Hulu. Grâce à la 20th Century Fox, vous pourriez devenir d'ailleurs l'un des... Hulu pourrait être quasiment essentiellement une structure de Disney. On parle aussi de deux plateformes. Une plateforme de streaming pour le sport et peut-être une pour l'entertainment que Disney pourrait lancer. Alors, vous ne répondrez sans doute pas à cette question, mais quid du streaming ? Comment vous voyez le rôle de Disney dans ce domaine ?
Disney est avant tout un créateur de contenu. Donc, on fait des films, on fait des séries. On fait des séries qui sont soit des séries pour un public... adultes entre guillemets comme les séries ABC ou des séries pour les chaînes pour enfants et la base de tout, la fondation de tout, c'est la création de contenu. Et après ce contenu
Distribuer.
Et après le contenu est distribué et en fonction des périodes, en fonction de la manière dont les spectateurs, les téléspectateurs, les consommateurs ont envie de le consommer, les choses évoluent. Donc la situation entre il y a 20 ans et aujourd'hui n'est pas la même. La télé linéaire n'est peut-être pas autant regardée aujourd'hui qu'elle l'était. Le streaming, comme on l'appelle, ou la SVOD prend de plus en plus d'importance. Et il est important que pour une société comme la nôtre, on s'adapte aux évolutions des marchés et aux changements.
Mais ce que vous voulez nous dire, c'est qu'auparavant, au fond, Disney créait des contenus et puis ces contenus, vous les distribuez alors soit dans les salles avec les patrons de salles, soit sur des chaînes de télévision,
tout
etc. Désormais, est-ce que vous allez aller directement vers le public grâce à des services de streaming ? Et donc, le modèle de Disney serait profondément transformé. Le modèle B2B, disons, où vous passiez par des business qui transmettaient vos contenus, est-ce que vous allez vous-même les distribuer directement aux consommateurs ?
On ne va pas arrêter de montrer nos films dans les salles. On ne va pas arrêter de montrer nos séries pour enfants sur les chaînes de télé. Après, il y a la réalité de la SVOD, et c'est quelque chose qu'on regarde. On est déjà aujourd'hui, on a nos films sur Netflix.
Mais vous êtes en train de les retirer, justement.
Et bien évidemment. On a un accord qui dure jusque encore quelques années.
Oui, ça dépend des pays, ça dépend des séries.
On s'adapte. Donc, est-ce que demain, on aura un service spécifique ? On verra. En tout cas, est-ce qu'il y aura la même chose aux États-Unis et en Europe, la même chose en Europe et en France ? C'est trop tôt pour en parler.
Mais en tout cas, un Netflix, s'appellerait-je pas un Disflix, n'est pas impossible, au moins en théorie.
Il s'appellera pas Disflix si jamais il s'appelle. ce qui est important, c'est qu'on s'adapte aux manières dont les gens consomment les contenus. Donc s'il faut faire ça, on le fera.
Alors justement, Hollywood Reporter nous indique que l'adaptation en réel de La Belle et le Clochard serait destinée à une plateforme de SVOD qui vous serait propre. La Belle et le Clochard, donc ça donnerait l'idée que potentiellement il y en ait un et que des gros films comme ça pourraient ne pas sortir dans les salles.
on sortira toujours nos films dans les salles. Après, qui est, c'est, parce que c'est pas
les mêmes
films. Qui est une production. Hein.
Voilà, ouais. C'est ça. On peut, quand on fait des films pour le Disney Channel, les premiers High School Musical, ils étaient pas pour le cinéma,
ils étaient
pour le Disney Channel. Et puis après, on décide d'en faire un troisième, qui va directement au cinéma, puis après, qui est montré sur les chaînes. Donc, si on prend l'exemple de Disney Nature, on a fait des films Disney Nature qui sont allés directement en télévision.
Et donc, un mot justement sur ces films-là, La Belle et le Clochard, après La Belle et la Bête, après Cendrillon, ouais. Tous ces films qui sont des espèces de réadaptations, enfin de réadaptations, d'adaptations en prise de vue réelle et numérique de dessins animés qui ont fait le lustre de Disney. Ça, ajouté à toutes les franchises, des refranchises, des re-refranchises, on sait que Steven Spielberg a quitté Disney notamment parce qu'il critique le système des franchises. Et d'ailleurs, son dernier film, Ready Player One, est un petit peu une forme de dénonciation de ce système-là.
Après l'avoir beaucoup fait.
Après l'avoir lui-même beaucoup fait, mais ça fait partie des principales critiques que j'ai à l'encontre du film. Est-ce qu'on a un peu l'impression qu'à part La Reine des Neiges, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose de vraiment fondamentalement neuf? Oui, Coco, Reine des Neiges.
C'était il y a 4 jours, il y a 4 mois.
Oui, voilà, mais vous sortez
vice versa. Wow.
Bah ça n'a pas été les mêmes succès, justement, que vos écouries.
Ah, vice versa, c'est 4,5 millions d'entrées. Coco, c'est 4,6 millions d'entrées. Black Panther, qui n'est pas un film qu'on attendait, il fait 3,5 millions d'entrées. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Est-ce que Mary Poppins pourrait exister aujourd'hui? Le film préféré de Walt Disney lui-même. Est-ce qu'un Mary Poppins pourrait exister?
À Broadway, ça a été difficile. Hein.
Mary Poppins revient.
L'équivalent d'un Mary Poppins.
Mary Poppins revient le 20 décembre.
Ouais. Mais à Broadway, ça a été difficile.
Ah bon?
Comme Tarzan. Oh bah si, Tarzan, c'était catastrophique.
C'est un très très beau spectacle, Mary Poppins à Broadway. Absolument. Mais Mary Poppins revient le 20 décembre.
Eh bien on le sait maintenant.
On a Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Alors qui s'inspire de quelque chose de connu, mais c'est qui arrive fin octobre.
Que des bonnes nouvelles. C'est Noël tous les jours avec Disney.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quels sont fantastiques.
Ces mots signifient que tu vivras ta vie. Sans aucun souci, philosophie,
Hakuna Matata. Soft Power, Frédéric Martel.
Il est 19h47, vous écoutez Soft Power jusqu'à 20h30 en direct. Mon invité est Jean-François Camilleri, le patron de Disney en France. Une question d'Emmanuel Paquette de l'Express.
Alors je vous ai bien écouté, donc j'ai vu que vous aimiez la France, que Disney aimait la France. Alors il se trouve qu'on a un studio de cinéma qui est en difficulté aujourd'hui, qui s'appelle EuropaCorp, qui cherche justement des investisseurs pour retrouver la bonne santé, que Netflix tourne autour. Et donc je voulais savoir si Disney pouvait se pencher en tant qu'une bonne fée, justement, puisqu'ils sont habitués aux bonnes fées chez Disney, donc sur le berceau d'EuropaCorp pour essayer de sauver la société de M. Besson.
Je pense qu'il n'a pas besoin de nous, il y a plein de gens qui veulent le sauver, donc ça tombe très très bien, et que nous on a déjà racheté Star Wars, Marvel.
Oui, c'est beaucoup moins cher, hein, je vous rassure. Il y a quelques dettes aussi. Mais...
Voilà. C'était 4 milliards Marvel, c'était 4 milliards à Lucasfilm aussi en 2009 et en 2012.
Et Pixar en 2006, donc non, on a ce qu'il faut, on a suffisamment de films et...
Donc pas d'EuropaCorp chez Disney?
Non.
Alors vous manquez pas d'argent puisque en l'occurrence votre patron est arrivé à Paris avec 2 milliards dans la poche. Il était d'ailleurs accompagné pour l'occasion à l'Élysée fin février à côté du président de la République Emmanuel Macron pour annoncer qu'il allait investir 2 milliards donc de dollars dans Disneyland Paris dont vous vous occupez pas directement, mais peut-être un mot sur le succès, les difficultés de ce parc qui a connu des hauts et des bas et qui aujourd'hui au niveau européen a un public 50% français, 50% européen à peu près, en gros.
Oui, il y a à peu près 7 à 8 millions de Français qui vont à Disneyland Paris chaque année. Non, la seule chose que je pourrais vous dire, Frédéric, c'est que cette annonce de Bob Iger, qui date d'il y a maintenant un mois, prouve qu'il y a un intérêt très très fort de la Walt Disney Company en général sur la France. La Walt Disney Company croit en la France et c'est une excellente nouvelle pour l'économie française, pour l'économie franzilienne, parce que on est clairement sur la région de l'Île-de-France et pour l'emploi. Donc
et aussi pour le cinéma, puisque dans les annonces qui ont été faites, cet argent va servir notamment à développer de nouvelles attractions qui vous concernent au premier titre d'une certaine manière.
Voilà, Star Wars, Marvel et la Reine des Neiges notamment.
Donc trois nouvelles, c'est pas exactement, c'est des sous-parcs, disons, des parties de parcs.
Voilà, et d'avoir une société aussi importante que Disney qui décide d'investir 2 milliards d'euros sur le territoire français, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle.
Vous avez aussi des magasins, notamment ce qu'on appelle les Disney Store, qui dépendent de vous. Il y en a 5, je crois, aux Champs-Élysées, il y en a à Marseille, à Lyon, etc. Vous avez aussi des corners, on appelle ça des corners maintenant, c'est-à-dire des petits bouts de magasins dans des grands magasins plus grands, aux Galeries Lafayette ou au BHV, par exemple. Quelles sont les grandes lignes de ces magasins, notamment en termes des produits que vous vendez aussi? Parlons deux secondes de tout ce débat sur les produits alimentaires, notamment de Disney.
Alors dans les Disney Store, nous ne vendons pas de produits alimentaires, nous vendons des produits spécifiques aux Disney Store qu'on ne peut trouver que dans ces magasins-là. Et comme vous le disiez, on en a 5 et puis on a également un très grand magasin aux Galeries Lafayette Haussmann et dans beaucoup de Galeries Lafayette en France. Sur les produits alimentaires, on a fait un choix fort qui est de...
Qui sont vendus où alors du coup?
Ah ben dans toutes les grandes surfaces alimentaires. On a fait un choix fort qui est de développer un programme qu'on a appelé Tous en forme, qui est aussi la marque de notre engagement sur le manger mieux et le bouger plus. Parce que on parle aux familles, on parle aux plus jeunes, et il en va de notre responsabilité de faire en sorte que, à travers les messages qu'on passe, à travers les personnages qu'on a, à travers les histoires qu'on développe, on puisse faire passer le message de manger mieux est capital, et voilà comment on va vous aider, vous parents, ou comment on va réussir à vous convaincre, vous enfants, à manger mieux, à manger moins sucré, moins salé.
Donc on mange pas
un
blue qui serait un thon rouge, par exemple.
Alors si c'est possible,
c'est quelque chose d'horrible que je viens de vous dire. Ouais. Par rapport à blue. Emmanuel Paquette.
Alors, excusez-moi, mais vous allez sans doute me l'expliquer. Je trouve un petit peu paradoxal que vous lanciez cette initiative et que dans le même temps, Disney re-signe avec McDonald's un accord multiannuel auquel ils avaient mis un terme en 2006, justement parce que McDonald's était considéré comme étant une chaîne alimentaire
de junk food,
voilà. Et donc, aujourd'hui, Disney re-signe avec McDo pour mettre dans les Happy Meal justement les jouets, les livres, etc. Disney. Et donc, dans le même temps, vous annoncez cette initiative. Donc, j'ai un peu de mal à saisir.
Alors, je vais vous expliquer. Emmanuel,
il faut
lui expliquer. Voilà.
Non, en fait, d'abord, cette signature, elle est aux États-Unis. Et ensuite, pourquoi cette signature? Et c'est très intéressant. La signature a lieu pour une raison très simple. C'est que, il y a en effet 10 ans, il a été décidé d'arrêter de travailler avec McDonald's parce qu'aux États-Unis et ailleurs, il était considéré que ce qu'il y avait dans le Happy Meal n'était pas suffisamment sain, ne correspondait pas à notre charte alimentaire, qui est une charte alimentaire assez dure, qu'on demande aux personnes avec qui on travaille de respecter. McDonald's a fait en sorte de s'adapter à cette charte alimentaire. Donc son Happy Meal a changé. Son Happy Meal est aujourd'hui en ligne avec ce que nous demandons aux personnes avec qui nous travaillons dans le secteur alimentaire. Et donc, il est possible de retravailler avec eux aux États-Unis.
D'accord.
Voilà.
Bon, ça fait longtemps que je suis retourné au McDo, hein, donc je tenterai peut-être.
Non, mais ce qui est très important, c'est que nous, notre objectif, c'est de faire changer les choses. Et si, à travers les demandes que nous avons à nos partenaires ou à nos ex-partenaires, on arrive à faire évoluer les choses, on arrive à faire en sorte qu'ils changent leurs recettes pour que ce soit meilleur pour les enfants et que ça corresponde à notre charte à nous, on a gagné, on a fait le bout de chemin avec eux, ils ont fait le bout de chemin avec nous, et donc on peut repartir et travailler à nouveau ensemble.
Le vibranium n'est pas radioactif, rassurez-nous tout de suite.
Non, tout va bien avec le vibranium.
Sur la question de la représentation, vous parlez de responsabilité depuis tout à l'heure, évidemment la question de la représentation des différentes sociétés qu'ils représentent par Disney pose toujours un nombre de questions assez intéressantes. Il y a eu un énorme échec, gros problème de merchandising il y a deux ans avec Vaiana, avec certains produits qui posaient des problèmes aux populations aborigènes. Qui ont été enlevés directement. Mais ça, c'est des questions. Et évidemment, la question de la représentation des petites filles, qui reste quand même dans les Disney, même si elles sont de plus en plus courageuses, elles ont toujours une taille qui fait à peu près la taille de mon cou par rapport au reste. Question très bête, ça représente combien ce merchandising? Est-ce que c'est des questions qui se posent ou pas chez Disney aujourd'hui? la question de la représentation.
Ça représente combien en...
Moi, je parlais combien ça pèse, tout simplement.
En chiffre d'affaires ?
Ouais.
4,8 milliards dans le dernier rapport annuel.
Ah, il est merveilleux.
Il est, c'est sa passion. Ouais, il lit les rapports annuels.
Et le pourcentage, Emmanuel ?
C'est le plus petit de, tout, de tous les secteurs.
Ce qui est très important, c'est que... Bon, d'abord, vous parliez des filles, des femmes... des princesses, parce que nous on peut les appeler également comme ça, vous vous rendez compte quand même que dans la plupart des films, si c'est pas la totalité des films que nous avons sortis depuis 5-10 ans, elles ont un rôle de plus en plus important et de plus en plus fort. Vaiana, elle est plus forte que n'importe quel homme dans le film, Rebelle dans Rebelle également, et j'en passe, et des meilleurs.
Okoye, on peut citer, pour parler de Black Panther à nouveau.
Exactement.
Les femmes jouent un rôle majeur.
S'il y a vraiment un studio qui prend en compte ce genre de sujet, c'est le nôtre. Après, sur les produits, je pense qu'on est sur un sujet différent, et quand il y a eu le sujet sur les produits de Vaiana, juste avant que le film sorte, immédiatement les choses ont été changées, il y a eu un mea culpa qui a été fait parce que il y a une volonté de réaction immédiate et
je rappelle qu'évidemment ce qui posait question c'était que Disney, et là ça pose encore des questions évidemment d'investissement culturel de Disney qui avait investi donc cette culture aborigène mais qui avait représenté un dieu sur des produits de merchandising de manière plus ou moins complexe.
Alors moi je vais vous dire une chose sur Vaiana, film sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai eu la chance de travailler avec les gens de la Polynésie française sur le sujet. Tous les gardiens de la culture polynésienne et du Pacifique Sud sont très fiers du résultat, ont travaillé sur le film avec nous. On a fait une version tahitienne de Vaiana qui a battu tous les records puisque sur Tahiti, c'est 250 000 personnes, dont 180 000 personnes sur l'île principale. On a fait 180 000 entrées sur le film, en tahitien. Parce que les Tahitiens sont complètement accaparés le film, s'étant rendu compte qu'on leur rendait véritablement un immense hommage et que tout dans le film correspondait à ce qu'ils connaissaient.
Et pour terminer cette émission, finalement, peu à peu, et boucler avec Black Panther, comment est-ce que finalement vous avez... vécu ce film, je cite un universitaire américain noir, Lawrence Ware, qui dit « C'est cool d'être un black nerd, nous sommes redevenus cool ». Il y a évidemment tout un débat autour de la représentation des noirs qui était si peu présent dans les blockbusters. Là, c'est le premier super-héros black dans un blockbuster, un pari pour Disney, réussi a priori. Comment vous l'avez vécu vous-même, personnellement ?
Ça a été une expérience extraordinaire, d'autant plus qu'on a fait l'avant-première à Abidjan. Et faire l'avant-première de Black Panther à Abidjan, c'est la première fois qu'on faisait une avant-première dans un pays d'Afrique subsaharienne. On avait fait Coco à Tunis et on avait fait Vaiana en arabe à Marrakech. Mais faire l'avant-première de Black Panther à Abidjan était vraiment un immense moment. Et
c'est tout près de Wakanda en fait, c'est ça aussi la clé, non?
C'est tout près. On était pratiquement sur... Non, mais c'était vraiment un immense moment. Et quand on voit comment le film vit là-bas, mais vit aussi en France, pour nous, c'est exceptionnel. On ne s'attendait pas à un tel...
Donner 200 millions de dollars et même plus à Ryan Coogler pour le créer, c'était aussi un pari.
Bien sûr.
Le pari d'un homme, le pari d'un réalisateur, le pari d'un...
Mais c'est la beauté de ce que Bob Iger sait faire et de ce que Kevin Feige, le patron des productions Marvel, sait faire. C'est d'aller quelquefois dans des directions dans lesquelles on les attend pas forcément, mais qui au final, dans beaucoup de cas, fonctionnent, quoi.
Merci infiniment Jean-François Camilleri d'avoir été notre invité ce soir.
Merci
patron
à vous.
De Walt Disney Company en France. Pour aller plus loin sur Disney, vous pouvez consulter des articles, des ouvrages, des références de livres aussi que nous vous postons sur Twitter au mot-clé Soft Power. J'avais lu il y a quelques années ce livre de James Stewart que vous aimez peut-être pas, mais qui s'appelle Disney War, traduit en français sous le titre Le Royaume Enchanté. Formidable livre sur Disney, très critique, mais où on comprenait la machine de l'intérieur, James Stewart donc. Mais d'autres ouvrages aussi et articles. Merci d'avoir été notre invité ce soir et d'être revenu.
Merci à vous.
Dans Soft Power. Dans un instant, seconde partie de cette émission avec à 20h10 le débat le numérique et politique. Débat de ce soir consacré à l'open data. Nous en débattrons avec Paula Forteza et Séverin Naudet. Dans un instant, Zoé Sfès, votre invité innovation.
C'est Philippe Bellaval, le président des centres des monuments nationaux, qui va nous parler de l'incubateur de start-up que le CMN lance et c'est demain.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre après Hills sur France Culture. Sur France Culture, et à l'instant c'était The Deconstruction, titre extrait du dernier album du groupe californien Hills, disponible depuis vendredi. Un album qui déconstruit les codes de la musique, un peu néo-déridien on dirait, hein, pourquoi pas. Un groupe que vous pourrez voir en concert en France, ce sera le 9 juillet à l'Olympia.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Philippe Bellaval.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes le président du Centre des Monuments Nationaux et nous vous recevons ce soir dans cette cave innovation parce que le Centre des Monuments Nationaux lance demain un appel à candidature pour constituer un incubateur de start-up. Alors peut-être avant même de détailler les raisons qui vous ont poussé à lancer cet incubateur, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler qu'est-ce que c'est le Centre des Monuments Nationaux à ceux qui ne le sauraient pas ou ne le sauraient plus exactement?
Le Centre des Monuments Nationaux, c'est l'établissement public du ministère de la Culture qui gère une centaine de sites historiques répartis sur toute la France. C'est l'ancienne caisse des monuments historiques et nous nous occupons de lieux comme l'Arc de Triomphe, le Panthéon, la Sainte-Chapelle, le Château d'Angers, le Mont-Saint-Michel, la cité de Carcassonne et plein d'autres, plus de 100.
Et tant d'autres, justement, qui ne sont pas des musées, qui sont des monuments nationaux. Alors, vous lancez cet incubateur de start-up, on va voir qu'en fait, vous avez déjà pas mal expérimenté des choses avec des start-up, parce que, notamment, la France reste quand même un pays leader, et vous gérez ces monuments qui sont, pour certains, extrêmement visités, pour d'autres, moins. On va voir d'ailleurs que c'est l'un de ces enjeux. Mmh. Et vous lancez donc cet incubateur. Ce n'est pas d'ex nihilo que vous lancez ça, vous avez déjà travaillé sur des espèces d'applications ou des solutions. Oui. Avec des start-up. Depuis 2014, je crois, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ce type de collaboration et lesquelles peut-être ont marché ou vous ont séduit ou vous ont montré que vous aviez des besoins?
Écoutez, on a travaillé dans des directions assez différentes hein, avec ces startups. On a travaillé sur les services liés à la visite directement, visite du monument, application de visite, visite à distance, réalité augmentée. Et puis on a travaillé aussi sur des services périphériques, comme par exemple la mobilité ou la gestion des files d'attente.
À Notre-Dame, par exemple.
À Notre-Dame, oui. la visite des tours de Notre-Dame est une visite très populaire et par conséquent, il y a un problème de gestion de file d'attente. Donc, dans tous les cas, on a trouvé le bilan positif et on s'est dit au bout d'un moment qu'on ne pouvait pas se contenter d'être des consommateurs, en quelque sorte, de la créativité des start-up, mais qu'il fallait faire un pas de plus, il fallait entrer de plein pied dans la sphère numérique et les aider à développer, les inciter à développer des produits qui pourraient ensuite nous être utiles.
Parce que justement, ces startups avec lesquelles vous avez travaillé, on parle souvent ici dans France, dans Soft Power, on parle de la French Tech avec des villes, des domaines entiers, évidemment, la santé, l'administratif, qui sont couverts comme ça, qui sont très organisés. Vous travaillez avec des startups qui ne font pas forcément que ça, qui ne s'intéressent pas au patrimoine. Il manque peut-être ce volet-là, alors qu'on est quand même, la France, un pays de patrimoine et de tourisme, qu'on reste quand même le pays le plus visité du monde. Et on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à faire.
Bien sûr. Mais si vous voulez, par exemple, les startups qui ont travaillé avec nous sur des applications de visite à distance, elles ont aussi travaillé au départ dans le monde hospitalier, justement pour permettre à des malades ou à des enfants hospitalisés de parler avec leur famille, d'être en contact avec leurs proches, etc. Donc, le patrimoine, c'est pas nécessairement un monde à part. Il y a comme ça des applications qui peuvent être transversales et des applications développées dans le secteur du patrimoine peuvent être utiles aussi à d'autres activités.
Alors, vous lancez cet appel à candidature de manière plus précise, même si vous avez donné des exemples ici. Vous pensez que ça peut marcher. À quel moment le numérique, à quel endroit de cette visite du patrimoine, ou en amont ou en aval, est-ce qu'il y a des vrais défis, des vrais besoins peut-être en matière de numérique?
Oui, tout à fait. D'abord, en amont de la visite, parce que on est maintenant par rapport, notamment, on a des monuments avec une très forte fréquentation internationale. Si on n'est pas présent dans la sphère numérique au moment où les touristes ou les visiteurs potentiels qui vont venir en France font leur programme, font leurs achats, leurs réservation de visite, etc., on n'existe pas.
Voilà, ils peuvent totalement vous louper, parce qu'en plus, on est quand même en France avec cette grande richesse, mais cette grande concurrence. Il y a des gens qui ne savent pas que la conciergerie existe, par
exemple. Voilà, exactement. Donc, on est présent, évidemment, on a des sites internet, un par monument, on est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur les réseaux sociaux chinois, par exemple, parce que le développement du public chinois est un très grand enjeu. Et donc, notre perspective, maintenant, c'est d'offrir, en amont même de la visite, toute une offre qui n'est pas simplement d'ailleurs forcément une offre de visite, mais qui peut être une offre de guide, de vente à distance, etc. Bon, ensuite, sur place, évidemment, avec les applications de visite, la gestion des files d'attente pour les monuments les plus fréquentés, parce qu'on l'a fait à Notre-Dame, mais on envisage par exemple d'étendre ce dispositif à l'Arc de Triomphe, qui est un autre monument extrêmement, extrêmement fréquenté.
Et à la Sainte-Chapelle, ce serait pas mal aussi, avec la queue du Palais de Justice
voilà,
qui est
exactement.
Hein,
mais il y a un problème structurel que c'est aussi la queue du palais de justice. Voilà. Mais donc la gestion des files d'attente, les applications de visite, par exemple, on en a développé une qui permet depuis la Sainte-Chapelle de voir les verrières, y compris les scènes des vitraux qui sont très hauts au-dessus des visiteurs, voilà, qu'on peut pas voir. Évidemment, des applications et des informations accessibles dans de très nombreuses langues.
Hein. Ouais, parce et que l'enjeu de la langue avec des touristes qui bougent, notamment les Chinois.
Évidemment, mais les Coréens, les Japonais, les Russes, voilà, les visiteurs aiment être accueillis dans leur langue, je crois que c'est extrêmement important. Et puis ça peut être aussi après la visite, pour voir comment on peut établir une relation fidélisée avec les clients et à partir de ça, développer une relation commerciale complète.
Et évidemment, il y a la réalité augmentée, on en a beaucoup parlé, vous avez travaillé, je crois, avec Dassault Systèmes sur l'île de la Cité, il y a eu des choses très très audacieuses, notamment à la Conciergerie, qui est un lieu peu connu mais extrêmement riche en histoire avec des reconstitutions. Ça, c'est des choses qui sont assez séduisantes mais qui coûtent cher. Est-ce que vous avez un budget suffisamment, disons, fourni pour vous lancer dans cette aventure?
C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup de ces démarches, de ces applications, si vous voulez, ont été bâties sur un modèle qui était assez assez peu classique comme modèle économique parce que nos interlocuteurs des start-up et nous, on était en phase expérimentale. Voilà. Et donc, c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle on souhaite franchir une étape et aller de l'avant, parce que maintenant, on n'est plus en phase expérimentale sur ce type-là d'application. Il y a un vrai marché.
Et ça marche bien ou pas? Est-ce que quand vous, ces expériences que vous avez tentées, elles sont opérationnelles?
Le public est ravi. Voilà. Alors simplement, ça marche plus ou moins bien. Et ça, c'est justement une réflexion que nous devons avoir selon que c'est inclus dans le prix d'entrée ou selon qu'il y a un supplément. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aussi, c'est que si nous avons des dispositifs qui nous appartiennent ou nous ont été développés pour nous, nous pourrons plus facilement les offrir à très bas coût, ou en tout cas à un coût diminué au public, et donc assurer une beaucoup plus grande diffusion. Enfin, on est en tout cas à l'entrée d'un monde nouveau. Enfin, bon, je crois que c'est une grande banalité que de dire ça à propos du numérique dans la sphère culturelle. Et si on veut profiter de toutes ces perspectives, qu'offre ce monde nouveau, il faut être de plein pied dedans et pas simplement, si vous voulez, picorer, voir une start-up, trouver une application qui va bien. Il faut véritablement être acteur de plein exercice. Et c'est pour ça qu'on crée cet incubateur.
Incubateur où vous allez recruter 5-6 startups
pour commencer. Oui, voilà, on va commencer. On est la première institution du secteur patrimonial à le faire. Donc il y a quand même un aspect patrimonial. Mais je pense que donc les inscriptions, les candidatures ouvrent demain. Et d'ores et déjà,
avis à vous, amis start-upers.
Oui, absolument. www.l'incubateurdupatrimoine.fr. Et on a déjà eu beaucoup de demandes de renseignements, etc. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste quant à la réponse qu'on recevra.
Et dernière question, vous n'êtes pas un peu seul, parce que c'est très bien, et vous êtes quand même assez gros, vous, le Centre des Monuments Nationaux, mais est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce qu'il y a d'autres, j'ai envie de dire, alter-ego institutions, qui, notamment la Réunion des Musées Nationaux quand
même?
Oui,
mais je crois que tout le monde fait des réflexions. Alors, c'est vrai que là, on prend une longueur d'avance, mais un des enjeux, justement, de l'affaire sera de savoir dans quelles conditions et comment on peut partager cela avec d'autres institutions, parce que beaucoup d'applications ont vocation à être partagées.
Oui, et la question des droits, évidemment, est-ce que ça leur appartient à vous, à eux, au grand public, etc., se pose. Merci beaucoup, Philippe Bellaval. Et donc, vous pouvez postuler si vous entendez cette émission et que vous vous sentez concerné.
Innovateur, Philippe Bellaval, dans l'innovation, président du Centre des Monuments Nationaux. Le temps de vous dire que demain matin, sur France Culture, dans les matins, Guillaume Erner recevra l'ancien directeur de la revue Esprit, Olivier Mongin.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Le numérique et politique, le débat de ce soir est consacré à l'open data et nous en débattons avec Paula Forteza, députée La République En Marche. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Séverin Naudet, ancien conseiller numérique du Premier ministre et conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. Bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
La crise de confiance des Français à l'égard de leurs élus est croissante et Internet offre certaines opportunités pour fluidifier le lien entre dirigeants politiques et citoyens. L'un des moyens pour y parvenir, c'est l'open data, en français l'ouverture des données. Le principe est simple, l'État met à disposition des citoyens, de nous tous, des données qui permettent de s'informer sur l'action publique et donc potentiellement de contrôler le fonctionnement de l'État. Ça peut permettre aussi de créer des start-up qui se nourrissent de ces données pour organiser de nouveaux services ou de nouvelles applications. Par exemple, on peut aussi accéder grâce à l'ouverture des données au cadastre de l'ensemble des communes françaises, aux chiffres des aides accordées à la presse ou encore à l'agenda de Paula Forteza. Pour commencer, Paula Forteza, à quoi sert l'open data et comment est-ce que vous le définissez vous-même ?
Donc l'open data, c'est la mise à disposition des données publiques et parfois pas que publiques aussi, d'associations, d'acteurs du secteur privé, dans un format réutilisable et lisible par des machines, dans des formats ouverts, pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres acteurs pour aller justement vers plus de transparence, comme vous l'avez bien dit, la mise en place de services et de biens alternatifs. Donc c'est très important. Nous travaillons là-dessus au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites par François de Rugy, notamment l'ouverture de l'entrée et des sorties des lobbyistes, qui est très, très important pour pouvoir suivre l'impact de ces acteurs sur la fabrique de la loi. L'ouverture du budget de l'Assemblée nationale. Nous avons un hackathon qui est en train d'être organisé prochainement. Et nous avons aussi un travail qui va être fait avec l'écosystème pour trouver la bonne façon d'avoir des données en temps réel et dans les bons formats, les bonnes données que l'écosystème veut avoir.
Alors on va revenir sur les propositions qui ont été faites cette semaine par le président de l'Assemblée nationale, mais juste avant, c'est vrai, Nodé, vous avez à l'époque lancé la mission Etalab, qui est la structure donc, qui gère l'ouverture des données de l'État. C'était en 2011, cette mission a été reprise depuis par Henri Verdier. Vous êtes donc l'un des pionniers de l'open data en France. Qu'est-ce qui a changé en 2011, entre 2011 et aujourd'hui? Et comment est-ce que vous voyez, au fond, la manière dont ce projet ambitieux que vous portiez a été mis en œuvre?
Alors, juste pour faire une toute petite précision par rapport à ce que disait Paola, pour moi, l'open data, c'est rendre accessible des informations publiques, pas privées, hein, pas des données de l'entreprise. Et ça, c'est un point de désaccord que je peux avoir.
Mais ça peut être repris par des startups privées qui vont les utiliser.
Les informations publiques sont tellement volumineuses, tellement précieuses sur tellement de sujets qu'elles viennent nourrir l'innovation et elles viennent nourrir l'écosystème de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui veulent créer des applications. L'exemple le plus facile, c'est le transport multimodal, les données géographiques à caractère géographique, les données de transport public. Il a été très compliqué de faire admettre aux entreprises publiques comme la RATP de publier ne serait-ce que les données géographiques des stations de métro, des stations de bus, par exemple.
Alors, où en étiez, comment avez-vous lancé Etalab? Quels étaient les objectifs à cette époque-là? Et comment vous avez vu l'évolution de l'open data, l'ouverture des données en France?
Alors, l'open data, c'est un outil qui permet de rendre des comptes sur l'action publique. Et ça permet de le faire avec un niveau de détail qui est assez extraordinaire. Ça va à l'encontre de toute la culture de l'administration, du pouvoir en général
et
dans ce pays.
Et en particulier en France.
Particulièrement en France.
C'est-à-dire choisir l'opacité, le modèle français, et vous proposez la transparence.
Le modèle français, c'est de considérer que l'information, c'est le pouvoir. Et donc, quand on détient l'information, ça donne de la puissance à l'État, c'est une fin en soi. Et donc, il y a un modèle étatiste en France, on pourrait dire jacobin, qui considère que l'information, elle appartient à l'État et qu'il n'est pas question de la partager avec le citoyen, parce que si on fait ça, on s'affaiblit. Bon. Moi, je considère que partager l'information avec le citoyen, d'abord, c'est dans la loi, c'est une obligation légale, c'est l'information publique, elle est d'ailleurs payée par le citoyen, si on veut le considérer comme ça. Une des premières choses qui a mal tourné depuis que j'ai essayé de lancer une politique ambitieuse d'ouverture des données publiques, c'est que j'avais gravé dans le règlement, malheureusement pas dans la loi, parce que j'en ai pas eu le temps, la gratuité des données, ce qui est une évidence, hein. On peut pas demander aux citoyens de payer pour des informations publiques, et que depuis, on a recréé la possibilité
dans certains cas
de faire des redevances, c'est-à-dire de faire payer pour l'accès aux données publiques, ce qui est parfaitement scandaleux.
Parce que les citoyens payent deux fois finalement.
Ouais. Ensuite, non, mais de toute façon, l'information publique, c'est un droit fondamental. L'accès à l'information publique est un droit fondamental, et il faut que chacun ait conscience que c'est son droit fondamental d'avoir accès à toutes les informations. La vraie problématique, c'est la manière dont l'information est produite en France par l'administration. Et je vais prendre probablement l'exemple le plus symptomatique. C'est le budget de l'État. On a besoin et envie de savoir où sont mis les moyens, quels moyens et précisément à quoi. Si vous allez aux États-Unis, vous allez à Chicago, par exemple, sur le site de la ville de Chicago, vous savez exactement combien
ça va
a coûté un
crayon.
Trombone.
Oui, mais
absolument.
Ça va un peu loin.
Non,
peut-être.
Ça va pas loin du tout. On doit savoir comment son argent est utilisé. En France, on a inventé un truc génial qui s'appelle la LOLF. C'est la loi organique de loi de finances qui permet de faire des agrégats budgétaires par mission. Donc, par action et par mission. Donc, on dit, par exemple, promouvoir la culture ou assurer la sécurité. Et on ne sait jamais à quoi est réellement employé notre argent. Donc, il ne s'agit pas simplement de publier des informations, il s'agit de produire des informations correctement, pour qu'on rende réellement des comptes aux citoyens sur la manière dont on dépense son argent.
Une réaction sur ce commentaire très long, Paula Fortesin.
Oui, là-dessus, je suis d'accord. Il faut aller plus loin sur l'ouverture des données budgétaires. Donc, par exemple, les données des dépenses de l'État, les données des commandes publiques. Mais ce qu'il faut aussi, c'est se dire, bon, aujourd'hui, on a un cadre juridique qui est assez complet, qui va assez loin. Nous avons une loi pour une République numérique qui met en place l'open data par défaut, qui met en place l'ouverture des algorithmes publics, l'ouverture des codes sources, qui met en place cette notion de données d'intérêt général, donc on va vraiment très loin, c'est assez ambitieux, mais c'est la mise en œuvre où on commence à avoir des problèmes. Et il faut travailler au niveau technique avec les administrations pour pouvoir ouvrir les données à la source, c'est-à-dire ouvrir les données, par exemple, de Corus, qui est la plateforme qui recense les dépenses de l'État. Ouvrir ces données en flux réel, en temps réel. Donc nous avons des bons élèves, par exemple Météo France, qui ouvre ces modèles et qui les met à jour quotidiennement, tous les jours. Donc c'est vraiment
vers là. Il vaut mieux pour la météo, parce que c'est la météo.
Mais c'est dans leur intérêt. La réalité, ouais. C'est qu'il ne faut pas... moi, je ne crois pas du tout qu'il faille, et j'en ai une petite expérience, il ne faut pas être dans une espèce de partenariat de bonne volonté avec les administrations sur le thème « Soyez gentils, produisez des données correctement et publiez-les ». Il faut leur en intimer l'ordre.
Sinon, ça ne marche pas, vous pensez ?
Mais non, ça ne marche pas. Moi, j'ai vécu ça. Ce n'est même pas de la résistance de la part des administrations, c'est cette volonté
de maintenir l'opacité.
Les gouvernements passent et on profitera du vide à chaque fois pour s'assurer qu'on empêche l'accès à ces données. Corus, c'est un excellent exemple. Il faut absolument rentrer dans le détail des dépenses de fonctionnement de l'État. Météo France, ils ont évidemment intérêt à les ouvrir. C'est des données pratiques, ils ont un service, ils ont intérêt à ce que les gens viennent. Les administrations qui n'ont pas intérêt à partager leurs données, c'est celles dont on a besoin pour savoir si l'État est bien géré.
Alors pour la Fortesa, cette semaine, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, et Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, ont annoncé de nombreuses mesures pour rendre plus transparent et plus ouvert l'Assemblée, notamment, et l'action publique. Vous êtes député La République En Marche. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ben, nous avons contribué, disons, à la mise en place de ce plan d'action. Donc je crois que ça va vraiment dans le bon sens. Mais nous avons aussi des initiatives au niveau des députés particuliers où on peut aller un peu plus loin que l'institution elle-même. Nous avons par exemple des députés qui ouvrent leur IRFM en open data ou leur agenda en open data. Et je crois que c'est des données aussi très intéressantes.
C'est un peu gadget quand même, enfin, même si on est heureux de connaître l'agenda d'un député.
Pas du tout, justement, ça dit en quoi vous retrouvez par exemple des lobbies, en quoi si vous n'êtes pas dans l'hémicycle, c'est pas parce que c'est de l'absentéisme, c'est parce que vous avez des activités en parallèle.
Là c'est un peu de la communication, mais si on voulait être ambitieux, qu'est-ce que Séverin Oudé, qu'est-ce qu'il faudrait ouvrir entre guillemets et comment ouvrir ?
Oui, ben moi j'espère que des jeunes parlementaires comme Paola vont se battre pour faire changer les choses. Quand on lit ce rapport, moi je me suis demandé si c'était le rapport de 1998 en fait. On dit dans ce rapport quand même noir sur blanc, faut oser, on va faire un site internet qui fonctionne, on va ouvrir une chaîne YouTube et sur la base du volontariat, les numéros de téléphone des parlementaires seront peut-être accessibles. Ce qu'on veut avoir de la part des parlementaires, heureusement on a tué la réserve parlementaire il y a pas très longtemps.
Qui était en open data.
Ça a été... moi, je l'avais demandé à ce qu'on mette la réserve parlementaire en open data il y a quelques années. Ça a été un très très long combat. Ce qu'on veut savoir, c'est les notes de frais. Ce qu'on veut avoir, c'est les rendez-vous avec tous les rendez-vous des parlementaires dans le cadre de leurs activités
professionnelles. Pour les lobbyistes.
Oui, absolument. Ouais. Ce qu'on veut savoir, c'est tout ce que dépense l'Assemblée nationale, donc comme une direction des achats dans une entreprise. On veut savoir exactement les dépenses de fonctionnement dans le détail, du premier post-it jusqu'aux dépenses de communication de l'Assemblée nationale. On veut aussi avoir la traçabilité des votes. Il n'y a que les votes solennels aujourd'hui qu'on puisse retrouver à l'Assemblée nationale. Allez sur nosdéputés.fr aujourd'hui, c'est plus précis que d'aller sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même assez invraisemblable. Donc on voudrait avoir votes en commission, les votes en séance, etc. etc.
Mais au-delà de ces objectifs, sans doute positifs, qui seraient bienvenus pour les parlementaires, qu'est-ce que l'open data, si on veut avoir un peu plus d'ambition, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans le domaine public, Paula Fortesin ?
Donc, je veux juste revenir sur le cas de nos députés parce que c'est assez parlant. Des plateformes comme celle-ci vont scraper directement les données au lieu d'utiliser les données qui sont mises à disposition en open data par l'Assemblée. C'est-à-dire que les formats ne sont pas encore les bons, que les mises à jour ne sont pas encore assez régulières. Et donc, c'est vraiment ce constat d'où part les administrations.
Mais alors, au-delà de ce
ils
que
les fabriquent même. Ils fabriquent des données parce qu'on ne les donne pas, en fait. On ne leur donne pas. Donc, ils reconstituent des données, des jeux de données eux-mêmes qu'ils mettent à disposition du citoyen. Donc il serait vraiment temps, j'encourage le président de l'Assemblée nationale à trouver un ordinateur, qu'il n'a peut-être pas dans son bureau, et à aller surfer sur Internet pour se rendre compte qu'il y a des citoyens qui, sur leur propre initiative, font le boulot que l'Assemblée nationale devrait faire depuis des années.
Pour élever un peu le débat en termes de qu'est-ce qu'on pourrait faire réellement, l'open data, qu'est-ce que ça pourrait permettre si on était plus ambitieux au-delà des coudes de trombone des députés, Paula Forteza et puis Séverin Audet.
Alors, à mon avis, il faut aller déjà vers l'open data de toutes les données qui ont été financées par le contribuable. Parfois, c'est des données qui sont des données publiques, mais il y a aussi des données privées qui rentrent dans ce domaine. Il faut aller vers l'ouverture aussi des modèles, l'ouverture des algorithmes, et ce aussi parfois dans le secteur privé. Il faut qu'on puisse aussi accompagner les collectivités territoriales. C'est aussi un des grands chantiers, l'open data au niveau local, sur lequel il va falloir travailler. Il y a nombreux acteurs qui sont là-dessus en ce moment, des associations comme Open Data France qui font un peu ce travail. Mais je crois parfois que ce n'est pas un manque de volonté de la part des acteurs, c'est vraiment parfois un manque de compétences. Il y a bien sûr des obstacles culturels qu'il faut combattre, mais il y a beaucoup d'acteurs aussi qui font un très bon travail et voilà, qui vont dans la bonne direction. Je crois que François de Rugy comprend très bien ces enjeux et qui fait son maximum pour aller dans la bonne direction en tout cas.
C'est vrai, Nodé.
Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, hein, la traçabilité des votes, la présence des parlementaires en séance, donc
mais,
les
mais
votes en commission.
Au-delà même de l'Assemblée nationale, si on veut parler d'open data en général.
Si on veut parler d'open data en général, c'est qu'il faut absolument, impérativement, d'abord, il faudrait que le politique s'en saisisse. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un chef d'État, un chef de gouvernement, un ministre de l'économie et des finances faire un grand discours ce pays pour dire à quel point la transparence grâce à Internet était un outil de démocratie et qu'il fallait absolument qu'on retrouve dans le détail l'intégralité des données de fonctionnement et de dépenses de l'État. Moi, je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que j'ai entendu. Donc, c'est un outil dont les politiques doivent se saisir pour comprendre que si on ne veut pas renouveler l'exercice qu'on vient de vivre, c'est-à-dire un vote des 18-30 ans vers l'extrême droite et vers l'extrême gauche dans les proportions qu'on a connues aux dernières élections présidentielles, il serait temps de comprendre que la transparence totale et absolue du fonctionnement des institutions et de l'État est nécessaire et qu'elle est plutôt en fait souhaitable.
En termes démocratiques,
oui,
notamment.
Oui, absolument.
Paula Forteza.
Je crois que justement, notre président s'est prononcé lors de la remise du rapport sur l'IA, le rapport de Cédric Villani. Il a eu un très beau discours où il a vraiment
parlé... Sur l'intelligence artificielle.
Voilà, sur l'intelligence
artificielle.
Le président
Macron est intervenu.
Il a eu un très beau discours où il a parlé d'ouverture de données, de partage de données aussi dans le secteur privé, d'ouverture d'algorithmes dans le secteur public, notamment le cas de Parcoursup. Et je crois que pour aller plus loin aussi, pour revenir là-dessus, il faut vraiment travailler sur cette notion d'ouverture d'open data par défaut. Parce que pour l'instant, c'est inscrit dans la loi, mais les citoyens doivent encore faire la demande et passer par la CADA, cette commission d'accès aux documents administratifs, qui met beaucoup de temps à répondre.
Non, mais Paola, il y a une plateforme qui s'appelle data.gouv.fr
Je connais
data.gouv.fr, que vous connaissez très bien, et qui donc il n'est pas du tout question de passer...
Ça avait été des adjoints auparavant.
Il n'est pas du tout question de passer par la CADA.
Mais justement, c'est le cas aujourd'hui.
Non, c'est simplement l'open data par défaut, c'est de dire on fait de l'open data et puis ensuite toutes les couches réglementaires qui empêchent l'open data, dont la création de redevances, des multiples licences qui font que c'est très compliqué de les utiliser aujourd'hui alors qu'on avait créé une licence unique, etc., etc., etc. Donc je redis
je crois que
l'administration dans ce pays fait tout pour garder la main sur les informations publiques et s'assurer que le citoyen n'y ait pas accès et que tant qu'on ne changera pas ça, on n'avancera pas sur la qualité de notre démocratie.
Opacité de l'administration versus transparence. C'était au fond aussi ça le débat de ce soir sur l'open data et l'ouverture des données. Si vous voulez aller plus loin sur cette émission, vous pourrez écouter celle qu'on a faite avec Henri Verdier qui s'occupe justement du numérique de l'État. C'était dans Soft Power le 3 décembre dernier. Et vous pouvez retrouver cette émission également sur podcast sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Merci infiniment à tous les deux. Merci à Paula Forteza, députée de La République En Marche. Merci à Séverin Naudet, ancien conseiller numérique du Premier ministre et conseiller en innovation au cabinet de conseil Tilder. Bonsoir à tous les deux.
Merci, bonsoir.
Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et dimanche prochain, dans Soft Power, on parlera des assurances. Et des assurances, notamment à travers les données, l'open data et comment les assurances eh bien, vont mieux nous connaître et peut-être aussi comment on pourrait, on devrait mieux les connaître et leur fonctionnement, comment connaître leur fonctionnement également. Bonne soirée sur France Culture, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.